Et vous allez nous parler aujourd'hui de la philosophie du Land Art Digital. Et je crois que vous allez apprendre des choses tout à fait neuves à beaucoup d'entre vous.
Merci. Alors, quand on m'a invité à faire cette intervention aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi. Bien sûr, la commande, c'était philosophie donc, et jardin. Alors, j'ai tout d'abord pensé à reprendre un travail que j'avais fait pour l'Encyclopédia Universalis, quand Hervé Brunon m'avait demandé de traiter ce sujet, justement, de montrer le lien qu'il y a entre philosophie, si lien il y a d'ailleurs, entre philosophie et histoire des jardins. Et c'est un travail donc, qui a été, au fond, mené, publié maintenant, puisque donc, il s'agissait de réactualiser l'article de Grimal dans l'encyclopédia. Ça a été fait, ça a été publié. Et je me suis dit, mais au bout du compte, pourquoi reprendre ce travail et pourquoi, finalement, ne pas prendre ce sujet-là par un autre biais? Alors, un autre biais, pourquoi? Parce que j'ai reçu aussi, entre-temps, donc, l'argumentaire donc, qui a conduit à cette journée d'études. Et dans l'argumentaire, il y a un passage qui m'a beaucoup intéressée sur la question en fait, des disciplines ou des disciplines non clairement identifiées, j'aimais beaucoup cette expression, qui ne sont pas nécessairement enseignées à l'université et qui pourtant ont comme objet donc, la question des jardins. Donc disciplines hors de l'histoire ou de l'histoire de l'art. Et c'est vrai qu'au fond, il faut bien avouer que l'histoire de l'art des jardins est plutôt enseignée dans des écoles qui forment des praticiens, c'est-à-dire des paysagistes concepteurs ou des architectes qui vont se tourner vers le paysage. Bon, c'est le cas, on en a parlé ce matin, donc pour l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Et donc c'est vrai que la question disciplinaire est une, je trouve, une entrée tout à fait intéressante pour traiter de cette question de la philosophie et des jardins. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, bon, s'il fallait au bon fond synthétiser cette affaire, donc philosophie et jardin, quelles sont les entrées? C'est-à-dire d'un point de vue disciplinaire, au fond, comment ça se passe? Alors j'ai pris là quelques exemples parce qu'il me semble assez connu. Il me semble que dans le lien entre philosophie donc, et jardin, il y a trois entrées possibles qui sont au fond les trois entrées classiques de la philosophie. Il me semble que l'entrée la plus immédiate et au fond la plus connue, c'est peut-être celle qui consiste à, comme on dit, cultiver son jardin. C'est-à-dire que le grand initiateur, c'est Voltaire et c'est Candide. Après une vie donc, de vicissitudes ou d'aventures plus ou moins heureuses, il est grand temps de se remettre à son jardin et de le cultiver. Or, on a là donc un aspect, on va dire, un peu éthique ou moral, et c'est une des entrées possibles et d'une des rencontres possibles entre philosophie donc, et jardin. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième entrée possible, c'est une entrée, donc la question philosophique de la rencontre philosophie-jardin, c'est une entrée par l'ordre de l'esthétique. Alors là, s'il fallait citer des auteurs et des sujets, je pense par exemple aux catégories du beau et du sublime, donc telles que Baldine Saint-Giron a pu par exemple en parler, et montrer que ces catégories qui sont forgées à propos de parfois toute autre chose servent aussi donc, à comprendre, à éclairer la question donc, du jardin. Plus proche de nous, peut-être dans le temps et avec, je dirais, un autre éclairage, la question de la couleur verte, par exemple, comme levier écologique ou comme levier de prise de conscience environnementale. Donc là, c'est quelque chose qui a pu être développé donc, par quelqu'un qui s'appelle Louis Fell et qui est donc un jeune paysage... Enfin, jeune, on peut dire ça quand même, t'es plus jeune que moi en tout cas, donc jeune paysagiste donc, et tout à fait intéressé par ces questions. Mais on retrouve aussi dans cette rencontre entre philosophie donc, et jardin une troisième entrée et qui est celle, on va dire, de la connaissance, donc de la science et de l'épistémologie. Et c'est vrai que quand je me suis intéressée moi à l'histoire des jardins, au fond, il y a quelque chose qui m'est apparu comme une évidence à un moment donné, c'est que ce que je pouvais apporter, c'était la question de savoir comment on écrit l'histoire. C'est-à-dire non pas simplement quelle histoire on a écrite, l'historiographie, mais quelles sont les conditions à partir desquelles on va pouvoir peut-être clarifier cette histoire des jardins. Donc, ça c'est une première chose. Et puis dans la question des jardins et de la rencontre jardin-philosophie, il y a aussi toute la question de l'empirisme. C'est-à-dire qu'on a des philosophes, par exemple Rousseau, qui notamment donc, à travers l'Émile, voit dans le jardin quelque chose comme le cadre à partir duquel on va pouvoir faire l'éducation de ce jeune garçon et l'éducation par l'expérimentation. Donc on a dans cette approche donc, entre science et Jardin, on a cette entrée qui est celle de l'empirisme, c'est-à-dire la connaissance via l'expérimentation, via le faire. Donc ça, voilà trois entrées possibles, et ces trois entrées, il me semble, on peut les retrouver à propos de toute autre chose, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais je tenais à poser le cadre. Donc, au fond, moi, c'est vrai que je me suis intéressée, je vous l'ai dit, à cette question de l'épistémologie, de l'histoire des jardins, puis à la science du paysage, parce que j'étais, comme l'a rappelé Françoise Dubos, je travaillais dans l'école du paysage de Versailles, et tout d'un coup, il s'est posé la question de savoir comment on allait peut-être amener au doctorat des praticiens, donc dans une formation tout à fait poussée en matière de pratique, mais comment on pouvait les amener à penser donc leur propre pratique, à prendre du recul, à être critique, et donc à faire des doctorats non pas simplement en histoire d'architecture des jardins et du paysage, mais à partir de notions ou de proto-concepts, comme je les ai appelés, donc déjà inclus dans la pratique des paysagistes. Et ça a été une de mes entrées, j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Pour donner un exemple, le jardin planétaire de Gilles Clément, bien sûr que c'est une manière de dire comment on fait des jardins, mais c'est aussi un proto-concept ou un concept, c'est banalement une notion, qui permet d'éclairer une façon, non pas de faire tel ou tel jardin, autrement dit tel ou tel projet précis, mais de penser le projet de paysage de façon plus générale. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus à l'école du paysage de Versailles, donc c'est un peu un travail qui est derrière moi, même s'il me tient à cœur. Et dans mon enseignement actuellement à l'université de Valenciennes, puisque c'est aussi là-dessus que je voulais attirer l'attention, il y a des crypto-enseignements autour des jardins. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des lieux dont on comprend bien qu'ils sont dédiés donc, à la question du jardin et des paysages, mais il y a aussi des interstices, et notamment à l'université. Et alors, moi, je rencontre cette question du jardin et des paysages sur trois registres. Le premier, c'est un cours de licence 3, donc en architecture, jardin et paysage. Parce qu'on ne peut quand même pas former des étudiants en art, moi je suis dans un département d'art, sans leur donner des notions donc, autour de ces questions, de l'architecture, du jardin et des paysages. Bon. De façon plus pointue, cette fois-ci en master, donc je rencontre aussi ces questions dans un cours qui s'intitule « Esthétique des arts plastiques et numériques ». Donc là, la question, au fond, c'est de savoir, vous voyez, une des trois entrées de la philo, donc morale, épistémologie, esthétique, la troisième entrée, c'est celle qui, dans un département d'art, c'est celle que je privilégie, donc c'est une esthétique des arts plastiques et numériques aux prises, donc avec la question des jardins et des paysages. Et alors, de façon plus pointue, c'est de cela dont je vais vous parler aujourd'hui, quand je suis arrivée à Valenciennes, je ne connaissais pas très bien l'art numérique. Donc je connaissais évidemment les arts, je veux dire, bon, ce qu'on appelle classiquement les beaux-arts. Bon, je m'étais bien sûr aussi intéressée à cette affaire de jardin, de paysage, enfin, architecture, paysagisme, etc. Mais j'ai découvert donc, ces artistes contemporains qui travaillent avec les ressources du numérique. Et là, j'ai été frappée de voir à quel point ces gens sont obsédés donc, par la question des jardins, des paysages, de l'environnement, des catastrophes naturelles, etc. Et je me suis dit, mais bon sang, mais bonsoir, bien sûr, voilà le sujet donc, qui va me permettre de faire le pont entre ce qui m'avait intéressé auparavant et ce que je peux enseigner de façon on va dire, un peu pointue à ces étudiants. Et donc, je me suis vite aperçue que ces artistes donc, d'aujourd'hui travaillent donc, dans une forme d'héritage par rapport au land art des années 60, tel qu'on le connaît, bon, c'est tout à fait. Et héritage, ça veut dire héritage des questions, héritage des préoccupations, mais ça peut vouloir dire être fidèle à l'héritage ou au contraire le dilapider, c'est-à-dire aller parfois même plus loin que ce que les landartistes ont fait donc à partir de ces années 60 aux États-Unis, dans les pays on va dire anglo-saxons, et puis tel que c'est arrivé donc, en Europe. Et véritablement, je me suis dit, mais il y a peut-être un courant donc artistique, qu'il faudrait nommer et porter donc à la connaissance du grand public, et que j'ai baptisé donc Digital Land Art, ok, mais avec des ressources qui sont les ressources du numérique, donc d'un point de vue digital. Alors bien sûr, du coup, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est du lien entre Digital Land Art et philosophie, mais comme je ne peux pas parler de Digital Land Art en général, je vais donc vous parler d'un artiste particulier qui s'appelle Miguel Chevalier. C'est un artiste franco-mexicain. Alors vous avez ici son site Internet, où vous allez retrouver toutes les œuvres dont je vais vous parler, tous les textes, dans les extraits de textes que je vais montrer. Alors, c'est un artiste qui, au départ, a une formation classique de plasticien, et qui, un jour, jeune étudiant, s'est dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter, moi, de neuf à la peinture ? Il y a déjà tellement de choses qui ont été faites, tellement de chefs-d'œuvre, tellement... Qu'est-ce que, moi, je vais pouvoir faire d'un peu novateur ? Et alors, il s'est dit, mais finalement, peut-être qu'il faut changer de média. Et là, il s'est intéressé à la question du numérique, et de plasticien qu'il était, il est devenu donc artiste, utilisant ses ressources, au fond, de l'ordinateur. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment, à travers les œuvres qu'il réalise, on va retrouver ces trois entrées philosophiques dont je vous ai parlé, donc la question de la science et de la connaissance, la question de l'art et de l'esthétique, et pour finir, la question de la morale, de l'éthique. Ce que j'appelle les trois entrées, et avec des questions fondamentales, philosophiques, que je vais formuler et qui seraient à développer. Alors évidemment, tout ce que je vais montrer, c'est fautif, d'abord parce que ce sont des... en matière d'œuvre, parce que ce sont des captures d'écran, là où ce sont... Donc du coup, vous voyez, même si j'allais dire à l'échelle d'un timbre-poste, même si c'est un peu plus grand qu'un timbre-poste, ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir évidemment avec l'échelle des œuvres. Il faut imaginer que ce que vous voyez là, ça prend en réalité, par exemple, un écran qui va de ce mur-ci à ce mur-là. C'est fautif déjà du point de vue de l'échelle, et c'est surtout fautif du point de vue du média, parce que on est là face à un art qui est à la fois un art du mouvement. Par exemple, ces plantes sont des plantes qui sont en mouvement, qui vont réagir grâce à des capteurs au mouvement des spectateurs devant les écrans. Et c'est aussi un art sonore, parce que ces œuvres visuelles sont toutes doublées de musique, d'une bande son. Mais bon, au-delà du caractère fautif, vous retrouverez les œuvres sur Internet, déjà au moins les films et non pas simplement des images statiques. Et puis, je vous invite bien sûr à aller les pratiquer, puisque c'est de cela dont il est question. Alors, il me semble que, premier point, Digital Land Art et Science, les œuvres de Miguel Chevalier sont des œuvres qui entretiennent un rapport évident avec la question du scientifique. Là, par exemple, on a affaire à une œuvre qui s'intitule « Herbier virtuel, trait d'union sur nature », œuvre de 2005. Il me semble que d'abord, c'est quelqu'un qui est fasciné par la question de la connaissance des plantes et même des outils qui permettent de connaître les plantes, et notamment des herbiers. Alors, chaque fois, les extraits que j'ai pris, que je vous donne à voir et que je vais commenter, ce sont des extraits de textes qu'on trouve sur son site, qui soient textes qui sont soit de lui, soit de commentateurs. Voilà ce qu'il dit. L'herbier virtuel des surnatures est composé de 18 graines virtuelles présentées sur des écrans plasma à la verticale. Elles sont à la base des jardins virtuels intitulés les surnatures. J'attire votre attention sur l'idée que d'abord, un, l'expression herbier, ce n'est pas de moi, c'est de lui. Deux, la question des jardins, je ne l'invente pas, elle est comprise dans l'intention même de l'artiste. Deuxième œuvre, je commente rapidement, parce que ce qui est intéressant, c'est, comme disait Françoise, qu'on arrive à discuter après. Là, vous avez une deuxième œuvre qui s'intitule Herbargus 2059, qui est une œuvre de 2009, et qui se présente en fait comme suit. C'est une sorte de livre numérique, avec d'un côté des plantes qui apparaissent ici, et un texte qui apparaît à main droite. Et comme vous le voyez ici manipulé, l'utilisateur peut passer, comme dans un livre au fond, d'une page à l'autre, sauf que l'œuvre est programmée de telle sorte que les plantes ici ne sont pas statiques, elles sont mobiles, elles vont se dessiner en fonction du mouvement du doigt qu'on va imprimer à la surface de l'écran, comme sur une tablette, et à main droite, le texte va changer, va se réécrire en fonction du mouvement qui est imprimé à la plante. Alors, s'il fallait se convaincre du lien avec la question de l'histoire des jardins et de l'horticulture, il est dit très clairement dans le site que c'est là un avatar, c'est là l'avatar numérique de l'herbarius, donc herbier inspiré de l'ouvrage médical de Materia Medica de Dioscoride. Donc il rappelle l'historique donc, de cet ouvrage. Il dit clairement, Miguel Chevalier, dit clairement que c'est là un avatar qui nous entraîne vers ce qui pourrait être une bibliophilie du XXIe siècle. Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça fait écho à la première partie donc, du colloque qu'on a eu donc, ce matin. Alors il dit, voilà, ça possède évidemment l'aspect d'un livre, mais ça mêle réel et virtuel. On présente donc des textes et des images qui sont générés en temps réel, c'est-à-dire en fonction du mouvement qu'on va imprimer donc, au livre. Et donc il décrit donc, ce qui se passe. Et ce qui est intéressant, à ses yeux en tout cas, c'est cette manière pour les textes et les plantes de se générer, voire même de se régénérer à l'infini. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui est obsédé par les outils de la connaissance, par la manière dont les plantes peuvent vivre et le lien qui, très étroit qu'il peut y avoir entre plantes donc, et textes. Alors il dit très clairement, je suis ici, que c'est un hymne à l'hybridation et il précise horticole et technique qui ouvre la porte d'un imaginaire intemporel. Et donc moi, la première question philosophique que je pourrais formuler et qu'il faudrait bien sûr développer, mais là ce qui m'intéresse c'est juste donc, de souligner les choses, c'est que en s'inspirant, quand l'art s'inspire des outils de la connaissance, qu'est-ce qu'il permet de connaître? C'est-à-dire que jusqu'où on a là quelque chose qui est une œuvre et qui, au fond, reste une œuvre d'art, et puis c'est très bien, ou bien est-ce qu'il y a connaissance et de quelle connaissance on parle exactement? Alors c'est aussi, donc Miguel Chevalier, c'est aussi quelqu'un qui s'est intéressé non pas simplement aux outils de connaissance au sens des herbiers, mais aussi aux dispositifs donc, qui permettent dans des jardins de cultiver donc des plantes. Là, par exemple, on a une œuvre de 86 qui s'intitule « Effet de serre ». Bien sûr, il joue hein, sur l'expression, donc, qui a été montée au Centre d'art contemporain de Belfort. Et ça montre très clairement que ce qui l'intéresse, c'est aussi le lien avec la serre comme ce qui permet finalement l'expérimentation dans les jardins. C'est-à-dire c'est le lieu où on peut tenter des greffes, des boutures, etc. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'entrée par l'empirisme. Là, on en a un exemple manifeste. Donc voilà ce qu'il dit. La serre réfère à la fois au paysage conditionné de la cité moderne et au paysage naturel qu'elle renferme. La nature qu'elle protège devient objet de vénération, totalement coupée du monde réel. Donc effet de serre, ça veut dire non pas simplement destruction comme on pourrait l'entendre, mais c'est au contraire le fait de préserver, ce sont des lieux de préservation, mais en même temps ce sont des lieux qui par leur artifice, et le côté positif de cet artifice, semblent coupés de la réalité. Alors il ajoute, les serres botaniques sont aussi cette rencontre entre deux complémentaires, qui seraient d'un côté l'image de l'arbre et de son feuillage pour le baroque, et de l'autre, la structure métallique de l'architecture de verre pour le classique. Baroque et classique rythment à la façon d'un balancier toute l'histoire des formes. Alors là, c'est quelque chose qui... la question de l'histoire des formes, donc en termes de connaissances et en termes de lien entre science, j'ai envie de dire, morphogénèse, si on va de ce côté-là, et histoire des jardins et art, là, on a quand même un terme qui est... est fort. Alors, il y a quand même deux questions qui me viennent. La première, c'est que je comprends bien que l'œuvre va transformer ce lieu d'expérimentation qui est la serre en lieu de vénération. Donc, et du coup, ça interroge quand même ce lien entre science et posture religieuse. C'est-à-dire qu'il y a là, dans le texte, il y a là quelque chose qui affleure entre ce qui est de l'ordre du connaître et ce qui est de l'ordre du croire. Bon. Il y a une troisième question. Qui porterait alors sur cette notion qui est centrale et qui est celle de forme, donc qui est source de propriétés matérielles et plastiques, donc pour les plantes et pour les œuvres d'art. Il me semble qu'on a là un trait d'union entre savoir et plaisir, peut-être entre savoir et saveur, hein, quelque chose comme ça. Alors toujours dans ce registre donc du digital land art et de la science, il va falloir quand même que j'aille un petit peu vite, plus vite. on va retrouver le vocabulaire formel des jardins. Par exemple, ici, donc dans la version, ça, ce sont les différentes versions d'une œuvre qui s'appelle Ultra Nature. Donc, l'œuvre qui est ici, donc, c'est une œuvre qui relève, dit Miguel Chevalier, d'un parterre. Donc, ça fait vocabulaire classique donc, de l'histoire des jardins. Alors, de quoi s'agit-il? 12 plantes virtuelles, aquatiques, des nénuphars, donc aux couleurs qui sont plutôt vives et éclatantes. Et l'idée, c'est que là aussi, elles vont interagir au passage donc des piétons qui parcourent en fait l'œuvre. C'est-à-dire, c'est comme si finalement, on pouvait à la fois poser et ne pas poser le pied sur les fleurs donc, qui se dessinent ici. Et ce qui est intéressant, c'est le terme qui est employé, il dit « elles meurent » ou « si elles grandissent, ces fleurs, elles s'épanouissent et elles en viennent à mourir en fonction de leur code morphogénétique. » Donc la quatrième question, c'est, on retrouve la question de la forme, hein, code morphogénétique. Donc si l'art du jardin virtuel s'empare de ce code, les œuvres virtuelles ne sont-elles pas destinées à faire connaître le réel? Autrement dit, mon idée, et ça c'est une intuition, bon, je ne peux pas le démontrer là, mais c'est quelque chose que je pourrais montrer sur une étude plus longue, c'est que l'art est au fond un détour. Et l'art, dans sa, peut-être son comble d'artificialité, qui est l'art numérique, c'est au fond un détour qui permet de revenir à ce qui nous intéresse ici, tous, donc c'est la question des plantes, de l'horticulture, etc. Donc le réel, pour moi, je voulais dire ici, un réel qui est celui de la plante. Alors, deuxième point, je vais aller peut-être un peu plus vite. Donc là, par exemple, ce qui a intéressé donc le titre de l'œuvre et de la série d'œuvres qui porte ce même titre, c'est Fractal Flowers. Donc ce qui intéresse Miguel Chevalier, c'est l'idée alors, des fractales qui comprend comme le fait pour un motif donc, du vivant, de pouvoir être répliqué à l'infini et de composer ainsi la forme, donc même soit du végétal, donc par ici, mais bon, il y a d'autres images où on peut le montrer sur d'autres types d'éléments naturels, on va dire. Donc pour lui, cette question des fractales et son intérêt pour les fractales, donc c'est une grande source d'inspiration pour ce qu'il appelle ces jardins virtuels. Donc, voilà ce qu'il dit, sur un principe génératif et interactif, donc qui crée des graines virtuelles autonomes. Ces graines naissent aléatoirement, grandissent, s'épanouissent, meurent. Vous voyez, c'est toujours cette idée du cycle de la génération donc, et de la corruption, tout en réagissant au passage des visiteurs. Donc on a ici plusieurs versions de la même œuvre. Là, vous avez une idée de l'échelle. Donc chaque fois que le visiteur passe, il engendre en fait un mouvement donc, particulier sur les fleurs qui sont ici. Et des fleurs qui reprennent donc ce motif donc fractal qu'il développe. Bon, je peux montrer, retrouver d'autres images et d'autres occurrences. Alors, là, voilà un texte qui m'intéresse particulièrement parce que pour le lien entre donc, digital land art et art. Donc, les fractales, c'est évidemment inspiré de la science, mais c'est la façon dont l'art va se saisir de ce motif scientifique pour créer et générer des formes végétales. Donc voilà ce qu'il dit. Nous sommes ici dans un univers mi-végétal, mi-minéral, constitué de structures filaires qui rappellent les facettes d'un diamant. Ces fleurs fractales ont à la fois une réelle monumentalité par leur forme géométrique et en même temps un aspect évanescent. Ces fleurs se courbent comme pour faire une révérence aux promeneurs et l'accueillir dans la virtualité de cet intrigant jardin. Elles réagissent à nos mouvements grâce à des capteurs. Dans le langage génératif et chromatique qui est le leur, elles dialoguent avec nous. Alors, le commentaire se poursuit, et là, c'est plus lui qui parle, ces nouvelles fleurs de Miguel Chevalier sont sorties du végétal pour embrasser le cosmique. Et nous les contemplons, émerveillés par cette anatomie fractale qui réunit la beauté et la fragilité et célèbre cette union par une explosion de couleurs. Alors ce qui m'intéresse dans ce double texte, ou cet accolement de deux textes, c'est la série d'oppositions qui structure en fait l'explication ou le commentaire, comme on voudra. Végétal, minéral, monumentalité, fragilité, spectateur et co-auteur, puisque finalement ce que l'on voit, c'est aussi fonction du déplacement des visiteurs. Et il me semble que ce qui est mis en avant là, c'est peut-être l'idée que c'est la dualité Hein, c'est parce qu'on est entre végétal, minéral, monumentalité, fragilité, qu'il y a plaisir esthétique. Donc voilà une manière d'entrer dans cette question, on va dire, ce lien digital land art, art autour de ce qui va nous plaire au fond, ce qui va nous provoquer des émotions positives. Bon, je passe un petit peu, quoique juste une chose, il y a aussi bien sûr dans l'inspiration, dans le lien entre digital land art et art, il y a des artistes qui sont particulièrement pointés et nommés. Là par exemple, il y a une allusion explicite donc à Monet, à son jardin, aux nymphéas, etc. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'au fond il était peintre, il n'a pas oublié sa culture et sa formation initiale, Miguel Chevalier, et donc on retrouve dans le digital land art cette entrée donc par les beaux-arts de manière un petit peu classique. Alors par exemple là ce sont d'autres œuvres qui s'intitulent « Surnature » et il me semble que ce qui est intéressant c'est ce lien donc du coup qu'il peut y avoir entre eux. Où on est exactement? C'est-à-dire que ce que j'ai voulu exprimer là, c'est est-ce que ces jardins, donc ce sont les jardins réels, comme dans le cas de Monet, qui sont éventuellement peints? Est-ce que c'est ça la référence? C'est-à-dire, est-ce que c'est le jardin réel qui a été peint, mais en mettant l'accent sur le jardin réel? Est-ce que c'est le jardin réel qui a été peint, mais en mettant l'accent sur, cette fois-ci, la peinture? Donc, ou est-ce que c'est en fonction d'encore un autre lieu qui est l'imaginaire du peintre quand il a peint les jardins dans lesquels il pouvait évidemment se mouvoir? Autrement dit, quel est le référent? Et il me semble que là, ce qui est pointé, c'est au fond l'art comme un retravail à travers cette notion de virtualité, sans doute, de fait de penser la virtualité comme à la fois une province du réel, c'est-à-dire ce qui vient être plus réel sur nature, hein, plus réel que le réel, et en même temps comme étant source d'illusion. Et là, on est dans l'art. L'art, c'est ça, c'est la magie de l'art, c'est d'avoir à la fois un pied dans ce qui est de l'ordre de la réalité et en même temps un pied dans ce qui est de l'ordre de l'illusion. Alors là, c'est un autre exemple. Et après, quand même que j'accélère un petit peu. Donc, un autre exemple qui tient des techniques particulières. Alors là, par exemple, Silène Luminaris, Yves Mulfier de Bourges. Donc, il y a deux exemplaires. Un qui se trouve à Saint-Rémy-de-Provence, qui a été créé en 2011. Et l'autre, donc, qui se trouve dans le jardin de sculpture Le François, la Martinique, qui a été créé en 2015. Donc, au fond, l'idée, quelle est-elle? C'est que là, on a affaire à une source donc artistique qui va inspirer donc les œuvres qu'il crée pour des jardins. Vous voyez, on a une espèce de retournement donc du propos de l'artiste. Alors comment ça se passe? Donc la sculpture qui est créée ici, je vous ai mis les dimensions, elle fait 3,40 m de hauteur, qu'on retrouve ici dans cet autre lieu dont je vous ai parlé. Donc c'est d'abord une fleur. Donc, qui est créé grâce au logiciel donc de réalité virtuelle. Vous voyez ce que ce sont les images, donc les images de fleurs fractales, qui images proprement dites, qui n'existent que sous forme d'image. Sauf que maintenant, grâce donc aux imprimantes 3D, on peut prélever l'image qui n'existe que sous forme d'image pour la réaliser sous forme de maquette, donc grâce à ce type d'imprimante. Et une fois que l'on a la maquette, on peut réaliser donc l'œuvre elle-même et la disposer donc dans un jardin. Donc, ce qui est intéressant, c'est le commentaire, et on voit bien que c'est là et on est dans une question qui concerne véritablement l'esthétique. Elle est nommée en tant que telle par l'auteur, puisqu'il dit la chose suivante: une esthétique du virtuel est en train de naître à partir de ces objets matériels qui ont une vraie physicalité et qui sont nés grâce à des univers virtuels. Donc ce qui est intéressant, c'est bien sûr, ça serait d'interroger plus profondément ce qu'on entend par cette esthétique du virtuel. Est-ce qu'on est dans la pure illusion? Est-ce qu'on est au contraire dans le fait de produire des objets qui ont trait au beau? De quoi parle-t-on exactement? Je vais avancer, parce que sinon, voilà, je voudrais atteindre la troisième partie, tant pis, hein, je passe sur seconde nature Marseille, si ce n'est peut-être pour dire une... Allez, bon, on a donc cette l'œuvre est en deux temps. Donc on a cette sculpture orange, donc qui fait 18 mètres de haut. Voilà, j'ai les dimensions. Et cette sculpture est en fait source de sons et d'images. Et les images, ce sont en fait des fleurs qui vont venir être projetées, comme vous voyez ici, sur les façades donc de la place d'Arvieux à Marseille. Et ces fleurs sont en fait imaginées à partir de la flore méditerranéenne. Donc ce sont des cactées, des plantes grasses, des palmiers, etc. etc. En tout cas, c'est ce qu'il a identifié comme étant flore méditerranéenne. Et ces fleurs vont évoluer. Là encore, elles vont naître, elles vont croître, elles vont dépérir, elles vont parfois s'hybrider. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il me semble qu'à travers cette œuvre d'art qui est là pour le coup, donc une œuvre d'art urbain, donc ce qui est en jeu, c'est quelque chose qui caractérise cette finalité de l'esthétique du virtuel. C'est-à-dire, bon là, je ne peux pas le démontrer, mais je le dis, je pourrais le montrer, c'est que contrairement aux artistes des années 60, qui ont souvent été fascinés par des paysages de la dévastation, dont les préoccupations environnementales n'étaient pas prioritaires. Smithson, par exemple, pour ne parler que de lui, a déversé de la glu, mettons, ou de la colle, ou du bitume, le long d'une pente pour voir évoluer le matériau. Il n'y avait aucun souci de l'écologie, par exemple, dans ce pionnier du land art. Or, il me semble que, justement, face à cette esthétique de la dévastation, il me semble que chez les artistes du digital land art, il y a des préoccupations de soins, d'attention portée aux questions environnementales qui n'existaient pas chez les deux. Et donc, il me semble que derrière cette esthétique pardon, du virtuel, il y a en fait une finalité qui est celle de la réparation ou de la remédiation. Autrement dit, on est là à cheval sur des préoccupations d'ordre esthétique et des préoccupations d'ordre éthique. Et c'est là-dessus donc, que je vais finir sur cette troisième partie avec quelques exemples. Donc, cette question de l'éthique, il me semble qu'elle commence à se poser pour Miguel Chevalier à partir d'œuvres des années 90. Par exemple, ici, c'est une œuvre qu'il avait réalisée pour les jardins de la Casa Velázquez à Madrid, et elle s'intitulait Rencontre entre deux mondes. Et en reprenant le vocabulaire formel des parterres, donc ce qui est projeté donc, ici, c'était des motifs aztèques. Donc, ces écrans, en fait, hein, sur ces écrans qui sont aussi des parterres de jardin. Et donc, il dit, voilà, j'ai voulu faire une forme de land art en guise de trait d'union entre deux mondes et deux cultures, l'Amérique latine et l'Espagne. Quelque chose comme réparer hein, ce qui s'est passé entre ces deux parties du monde. Donc... À travers d'autres œuvres, donc Transnature, dont je donne ici quelques exemples, donc il me semble, alors on peut lire les commentaires, c'est, il dit la chose suivante, il parle donc de ses œuvres et de ses plantes, il dit « Leur forme et leur développement sont inspirées des formes d'arborescence, système d'organisation des données hiérarchisées ou aléatoires, utilisant le principe des racines, des branches, des tiges, des feuilles, des fleurs. » Donc, et le commentaire va insister sur la légèreté, la danse donc des fleurs qui retracent les contours d'un jardin, semblable à un microcosme, qui semble résumer l'évanescence de la beauté et de la vie. Donc on sent, à travers le commentaire et la façon de dire, de parler l'œuvre, quelque chose qui a trait résumé microcosme, résumé l'évanescence de la beauté et de la vie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « c'est si beau ». Ne gâchons pas, ne prenons soin hein, de ce qui nous est offert et de ce qui nous est donné. De sorte qu'il me semble qu'il y a à travers cette œuvre-là, de Miguel Chevalier, mais c'est vrai pour d'autres artistes du digital land art, quelque chose comme une bio-esthético-éthique, c'est-à-dire un souci pour le vivant, un souci pour la connaissance du vivant, même si ce ne sont pas des spécialistes, ce ne sont pas des quoique. Par exemple, Sommerer et Mignoneau, donc, ce sont deux artistes qui travaillent en duo. L'un des deux, donc elle en l'occurrence, a véritablement fait des études de biologiste. Donc il y a une connaissance parfois approfondie de la question du vivant, ou tout au moins un intérêt pour le vivant. Il y a un intérêt pour l'esthétique, bien sûr, mais il y a aussi donc une finalité qui est d'ordre éthique. Et vous retrouvez ici les trois grandes entrées qui sont celles traditionnelles de la philosophie, donc, et de cette rencontre possible avec Jardin. C'est une des dernières œuvres de Miguel Chevalier, donc, qui a été réalisée pour Chaumont-sur-Loire en 2017. Et donc, alors comment ça se passe donc, pour le Festival des Jardins, donc l'œuvre s'intitule In Out, Paradis artificiel. Donc déjà, ça prend cette forme-là. Donc c'est une sorte d'architecture demi-sphérique donc en bois qui a été recouverte. Donc ici, une structure qui permet de refléter donc le pourtour du jardin. Et une fois qu'on entre dans le dôme, donc il dit ça ressemble à un gros scarabée. Une fois qu'on entre dans le dôme, donc il y a une projection sur l'ensemble. Donc vous êtes en fait entouré de toutes parts, donc par ces fleurs, donc qui vont là encore croître, naître, disparaître, etc. Donc le commentaire est le suivant. Ça permet bien sûr d'explorer avec poésie la question du lien entre nature et artifice. Selon une démarche initiée à la fin des années 90, cette œuvre prend appui sur l'observation du règne végétal et sa transposition imaginaire dans un univers numérique. Il s'agit de reconfigurer notre vision du lointain et du proche. Donc il me semble que le commentaire fait bien le lien entre observation du règne végétal ou attention pour la question végétale, donc entrée science et connaissance, entrée philosophique et lien entre le jardin. L'impact d'une œuvre sur les sens, hein, puisqu'il s'agit quand même de séduire le visiteur, de provoquer des émotions. On a bien là quelque chose qui a à voir avec l'esthétique. Et dans cette attention au lien proche-lointain, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'éthique. Un jardin, c'est à la fois l'ici et c'est l'ailleurs. Et ce n'est pas parce qu'il y a une clôture que ça ne transperce pas, c'est faux. C'est peut-être précisément parce qu'on peut préserver ce qu'il y a dans le jardin, qu'il y a du lien avec ce qui est à l'extérieur. Donc il me semble que ces dernières œuvres rentrent bien dans ce que j'appelle une bio-éthico-éthique ou plus simplement une esthétique de la remédiation. Il me semble être au cœur donc, des préoccupations de ces artistes du digital lambda. Alors pour conclure de manière rapide, donc d'abord je crois qu'il faut... Bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. La démonstration exige qu'on aille vite. Et c'est vrai que quand on veut faire du systématique, c'est-à-dire du philosophique avec une œuvre d'art, on a tendance à forcer le trait. Donc, bon, je l'avoue, peut-être que parfois, il faudrait quand même aller plus loin. Et puis surtout, il faut rendre la parole aux artistes. Et il faut soumettre, en fait, donc ces questions ou cette manière de lire l'œuvre aux artistes. Alors évidemment, je l'ai fait pour Miguel Chevalier. Donc j'ai rencontré un colloque il y a quelques temps. Donc il devait venir aujourd'hui, puis il n'a pas pu le faire. Je lui ai dit, mais alors, est-ce que ça marche? Est-ce que mon truc, là, vous vous reconnaissez dedans? Alors, ça marche surtout pour lui. Pour la connaissance scientifique, pas de problème. Pour les préoccupations d'ordre esthétique, ça, il pense que ça marche, que ça fonctionne bien. Après, pour des questions d'ordre éthique, il est plus prudent parce qu'il dit, quand même, je ne sais pas, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, c'est une manière aussi de modérer mon propos et de dire aussi que quand un philosophe construit comme ça un discours sur finalement une œuvre d'art, il faut aussi rester un petit peu mesuré. Mais quand même, il y a quelque chose qui me paraît fonctionner, c'est que là c'est un cas, c'est un artiste. Et ces préoccupations-là et ces manières d'entrer donc, dans l'esthétique, l'éthique, et l'intérêt pour les sciences, ça se retrouve chez d'autres artistes. Et ça, quand même, j'avoue que ça m'épate. Et je crois que ça forme vraiment un courant artistique à faire connaître. Voilà, je vous remercie.
Merci de cette si brillante conclusion à cette belle journée qui a été fertile en très beaux épisodes, et c'était magnifique de finir comme comme ça sur tant de choses qu'on peut tisser du début de la matinée jusqu'à maintenant, depuis le fil numérique qu'on a tissé de multiples façons vraiment depuis ce matin, et puis ce lien entre nature et artifice sur lequel concluez Catherine, et qui me paraît être la définition même du jardin. Si on veut bien y penser, nous savons tous que le jardin, c'est à la fois la nature et le comble de l'artifice. Donc, merci d'avoir élevé à ce point le débat. Et je vous prie de lui poser des questions, parce que je suppose que vous avez envie d'en poser. Je crois que nous avons encore un peu le temps de le faire.
Oui, moi, c'était par rapport à l'éphémère, parce que les œuvres que vous avez présentées de Chevalier sont des œuvres qui, à chaque fois, sont éphémères. Peut-être pas, enfin, d'autres artistes que vous évoquiez pour Marseille, là, l'œuvre a été en place beaucoup, de façon pérenne. Est-ce que c'est un questionnement qu'il se pose en général en tant qu'artiste ou pas ?
Alors, certaines œuvres sont éphémères, mais d'une certaine façon, elles ont une pérennité qui est bien à elles, parce qu'elles sont éphémères sur un lieu donné. Par exemple, une œuvre peut être créée pour un festival et voilà, donc ça s'arrête avec la période du festival. Mais d'un autre côté, elles peuvent muter.
Elles sont reproductibles.
Voilà, elles sont reproductibles et quasiment à l'infini. Donc elles ont une forme à la fois d'évanescence et de pérennité qui est propre à l'art numérique. Et puis certaines œuvres sont créées in situ. Par exemple, l'œuvre Seconde Nature, donc pour la place d'Art Vieux à Marseille, elle reste en place.
Parce que je pense par exemple à des œuvres comme, enfin, des artistes comme Varini qui conçoit pour un lieu précis, effectivement, avec toujours cette idée derrière de pouvoir racheter l'œuvre et de l'installer ailleurs, mais c'est toujours quelque part quand même vraiment attaché à un moment donné avec une durée très précise.
Alors c'est vrai que on a les deux. C'est-à-dire que souvent ce qui se passe, c'est que quand une œuvre donc est requise, on commande une œuvre à un artiste donc du numérique pour un lieu précis, par exemple les carrières de Beau de Provence. Donc il a travaillé aussi beaucoup sur ces lieux, donc des endroits qui sont désaffectés et auxquels on essaie de donner un autre usage. Donc c'est vrai que l'œuvre va être adaptée au lieu, mais c'est vrai qu'elle est reproductible, c'est-à-dire qu'il va changer des choses après, il va changer l'échelle, il va changer la musique. Donc on est à la fois, c'est quelque chose qui est créé pour un lieu donné, et qui, même si c'est transposé, sera retransposé en fonction de la logique de ce lieu-là. Donc il y a vraiment un souci de l'espace qui est très, très marqué chez ces artistes. C'est pour ça qu'il y a vraiment un lien avec le land art. La question de l'in situ et de la création donc pour un lieu donné est prégnante, en dépit du fait que ces œuvres sont reproductibles et transportables à l'infini. Enfin, tant que les supports numériques dureront. Donc, parce que ça, c'est une autre histoire.